rappelle que j'ai publié, attention surtout de ceux qui m'écoutent sur Internet, donc la liste des retraites pour l'année 2021. Donc il y aura 5 retraites. Et j'ai encore 2 places pour la dernière retraite de l'année, octobre, du 19 octobre au 24 octobre, ici à Pagnès. Donc s'il y en a qui sont intéressés, me contacter le plus vite possible. Je vais lire les 2 textes liturgiques d'aujourd'hui. Donc l'épître pour cette fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire, dont nous fêtons la solennité aujourd'hui, c'est l'épître du livre de la Sagesse. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant de faire quoi que ce soit dès le principe. J'ai été établi dès l'éternité et dès les temps anciens avant que la terre fût créée. Les abîmes n'étaient pas encore, et déjà j'étais conçu. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies, écoutez mes instructions et agissez en sages, ne les rejetez pas, heureux l'homme qui m'écoute et qui veille tous les jours à ma porte, qui se tient à la porte de ma maison. Celui qui m'aura trouvé trouvera la vie et puisera le salut dans le Seigneur. On se lève pour l'évangile. Donc c'est l'évangile, c'est le Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé à Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge mariée à un homme de la maison de David nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré auprès d'elle, lui dit: Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Pendant cela, elle fut troublée de ce qu'il disait, et elle se demandait quelle pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit: Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein, que vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint se viendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Venez vous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, le mois d'octobre est un mois consacré au rosaire, à la dévotion à notre Sainte Vierge Marie par le chapelet, à cause justement de cette belle fête dont nous fêtons la solennité aujourd'hui, fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Et l'Église a toujours comparé la dévotion à notre Sainte Vierge Marie à l'échelle de Jacob. Dans l'Ancien Testament, Jacob, endormi, a vu dans un songe une échelle qui reliait la terre au ciel, et des anges qui montaient, qui descendaient le long de cette échelle. Et les pères de l'Église ont toujours attribué cette image à la Très Sainte Vierge Marie, qui est l'échelle qui nous permet de rejoindre notre Seigneur. On peut utiliser une autre comparaison, un cordon ombilical. La Sainte Vierge Marie, c'est le cordon ombilical qui relie l'enfant à la mère. L'enfant, notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'enfant, notre Seigneur Jésus-Christ, est relié, le catholique est relié à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, parce que le bon Dieu a voulu que toutes ses grâces passent par elle. De même qu'il a reçu son humanité d'elle, eh bien, il va vouloir l'utiliser aussi pour transférer ses grâces. C'est un peu un mystère. Beaucoup de gens un peu imprégnés par le protestantisme ambiant se disent: mais pourquoi est-ce que le bon Dieu n'est pas passé directement? Pourquoi a-t-il voulu passer par une créature comme la Très Sainte Vierge Marie? Mais la réponse, elle est toute simple. Pourquoi? La réponse est une autre question. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il voulu obtenir son humanité par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie? Il aurait très bien pu s'incarner directement sans passer par une mère. Donc tout le mystère est là. Donc il faut méditer sur ce mystère insondable, donc qui rejoint l'incarnation et la rédemption. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi une mère pour devenir homme? Et pourquoi a-t-il voulu devenir homme? Il a voulu devenir homme pour mourir sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour souffrir, pour mourir. C'est la seule raison de sa venue. Et le rosaire nous rappelle un petit peu tout cela, parce que les 15 mystères du rosaire représentent en quelque sorte les 15 barreaux de l'échelle qui nous ramènent, qui nous montent vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous montent vers le ciel. Et la Sainte Vierge Marie est celle qui nous amène au pied de l'échelle et qui, par la dévotion à cette Mère bénie, qui nous aide justement à franchir l'un après l'autre les différents barreaux pour monter vers le ciel. Donc la première étape, ce sont ce qu'on appelle les mystères joyeux. Les mystères joyeux nous aident à obtenir de la Très Sainte Vierge Marie, par la Très Sainte Vierge Marie plus exactement, la grâce de la conversion. C'est pour cela qu'on associe les mystères joyeux à la vie purgative. La vie purgative, c'est quoi? La vie de purification. La première étape pour monter vers le ciel, j'irais avant même de se mettre sur le premier barreau de l'échelle, la première étape, c'est évidemment d'enlever le péché mortel de notre vie. D'enlever le péché mortel de notre vie, parce que le péché mortel nous empêche de mettre le pied sur l'échelle. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse monter sur l'échelle qui mène au ciel si il est imprégné, si son corps, son âme plus exactement, son cœur est alourdi par le poids du péché? Donc la première étape, c'est d'enlever le péché mortel. Et c'est tout le rôle de la vie purgative. Le rôle de la vie purgative, c'est ça. La vie purgative, c'est la voie de purification qui nous aide à nous couper des attachements désordonnés, des attaches désordonnées, des occasions prochaines volontaires de péché mortel qui nous maintiennent dans le péché. La première étape, c'est nous couper de tout cela. Et la méditation des 5 mystères joyeux, l'Annonciation, la Visitation, la naissance de notre Seigneur, la présentation au Temple et les retrouvailles de notre Seigneur au Temple de Jérusalem à 12 ans, nous aident justement à comprendre toutes ces choses-là. Très Sainte Vierge Marie est ce modèle parfait, justement parce qu'elle est Immaculée Conception. Étant Immaculée Conception, elle n'a jamais été touchée par le démon. Il n'y a bien sûr pas de péché mortel dans notre Sainte Vierge Marie, mais il n'y a même pas de péché véniel, ni même la moindre faute de fragilité, puisqu'elle est Immaculée Conception. Et on le voit par la méditation justement de ces 5 mystères, donc à partir de l'Annonciation, déjà dès le début, l'ange s'adresse à elle avec ses paroles pleines de respect, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Elle est pleine de grâce, pourquoi? Parce que justement, elle n'a pas la souillure du péché comme nous. Et quand elle va visiter sa cousine Élisabeth, eh bien, Sainte Élisabeth va rajouter la deuxième partie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donc elle est bénie parce qu'elle est Immaculée Conception. Elle est Immaculée Conception parce qu'elle a la maternité divine. Le plus grand titre de gloire de la Sainte Vierge Marie, c'est sa divine maternité. Parce qu'elle est mère de Dieu, Dieu n'a pas voulu que celle qui allait lui donner l'humanité soit souillée par le péché, même de très très loin, d'où son Immaculée Conception. Et on continue de voir cette même pureté dans les autres mystères joyeux, la nativité, la présentation au temple. Et là, déjà, on voit comment ça pointe le bout de son nez, on voit poindre les mystères douloureux qui arrivent, avec la prophétie de Siméon, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Parce que si elle est choisie pour devenir la mère de Dieu, si elle est choisie pour devenir la médiatrice de toutes les grâces, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, elle est co-rédemptrice, et qu'elle va participer aux grâces, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces, elle va participer à l'arrivée de ces grâces par la rédemption, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ses grâces par la passion. Une fois qu'on a réussi à se débarrasser du péché mortel par la pratique de cette vie purgative, cette vie de purification, en général, il y a un plateau. On appelle ce plateau la nuit des sens. C'est l'enseignement de Saint Jean de la Croix. La nuit des sens, c'est quoi? C'est une espèce d'épreuve terrible. Ceux qui sont passés par là vous le diront. Tous les saints sont passés par ces étapes. La nuit des sens, Dieu va, pour nous aider à chercher le Dieu des consolations et pas les consolations du bon Dieu, le bon Dieu va nous enlever les consolations sensibles. On voit très bien ça dans l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le bon Dieu nous enlève les consolations sensibles. Au début de la vie spirituelle, il met un peu de sucre sur les plaies pour nous aider justement à porter la croix. Et puis, au bout d'un certain temps, il va enlever le sucre. Et c'est ce qu'on appelle la nuit des saints, qui peut durer chez certains grands saints, ça a duré pendant un certain temps, parfois plusieurs années. C'est une purification justement pour nous aider à chercher Dieu et pas chercher simplement les consolations de Dieu. À ce moment-là, le bon Dieu va nous faire passer, nous faire monter sur ces barreaux d'échelle et va nous faire méditer ce qu'on appelle les mystères douloureux. Les mystères douloureux, c'est quoi? Ça correspond à la vie illuminative. Une fois qu'on s'est purifié, qu'on a purifié notre âme, qu'on n'a plus de péché mortel, c'est ça le but de la vie purgative, c'est d'enlever le péché mortel, le bon Dieu demande encore plus. La vie illuminative, quel est le but de la vie illuminative? Purifier du péché véniel cette fois-ci. Purifier du péché véniel, parce que même si on n'a pas plus le péché mortel dans notre conscience, dans notre âme, bon, on est en état de grâce, mais le bon Dieu demande plus que ça, il demande une purification supplémentaire. Donc, en quelque sorte, il va nous illuminer de ses grâces pour que nous puissions nous purifier encore plus. C'est la méditation des mystères douloureux. Donc, la première partie de la vie spirituelle, la vie purgative, va correspondre à ce qu'on appelle la conversion. La conversion pour nous couper des choses absolument qui sont un obstacle total à la présence du bon Dieu en nous, à savoir le péché mortel. Donc, la conversion nous coupe du péché mortel. C'est ça la conversion. Ça veut dire une conversion. Convertere, se tourner vers. J'étais tourné vers moi-même, j'étais tourné vers les choses de ce monde, je tourne mon âme vers une direction totalement opposée, je tourne mon âme cette fois-ci vers le bon Dieu. Et donc, après cette purification de la voie purgative, après l'épreuve de la nuit des sens, le bon Dieu nous met en vie illuminative pour éliminer cette fois-ci, je viens de vous le dire, le péché véniel. Et l'esprit, je pense, de cette deuxième partie de notre vie spirituelle, à savoir la vie illuminative, c'est l'esprit de compassion. C'est pour ça que Notre-Dame est appelée Notre-Dame de compassion. C'est ce qui va se passer pendant toute la Passion. Et donc les cinq mystères douloureux nous aident à compatir. Ça veut dire compatir, souffrir avec, cum patere. La Sainte Vierge Marie va souffrir avec son fils. Elle voudrait prendre les souffrances de son fils sur elle, comme une maman, si vous voulez, qui est à côté de son enfant qui est en train de souffrir à l'hôpital, qui a une déformation grave, une malformation grave, une maladie, qui souffre beaucoup à l'hôpital. La maman est là, elle voudrait, si elle pouvait, prendre les souffrances de son fils, les enlever du cœur de son fils, du corps de son fils, et les mettre sur son propre cœur, dans son propre corps, mais elle ne peut pas. Donc elle prend la main du fils, de son enfant, en disant, écoute, je suis là. Et par sa présence, elle fait ce qu'on appelle un acte de compassion. C'est ça la véritable charité. La charité et la compassion, la véritable compassion, sont deux termes synonymes. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir cette compassion qui correspond à la vertu de charité tant qu'on est en voie purgative, parce qu'on ne peut pas avoir la compassion, la charité, si on est peut-être péché mortel. Et donc cette compassion, cet acte de charité, répété par la méditation de la passion, va nous élever à éliminer cette fois-ci complètement le péché véniel. Et ce sera toutes ces cinq barreaux supplémentaires qui nous rapprochent du bon Dieu encore, donc l'agonie au Jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et à chaque fois, on monte un peu plus. Plus on monte on suit notre Seigneur Jésus-Christ dans la Passion, plus on se débarrasse des scories, cette fois-ci, du péché véniel. Quand on a vécu dans le péché mortel, à cause du péché mortel, notre âme, on peut dire avec un terme très moderne, sent un peu mauvais. Et donc, il faut maintenant achever la purification de cette âme pour qu'elle devienne de plus en plus belle pour pouvoir se donner complètement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la méditation de la Passion qui va nous aider à cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa passion, a accepté, à cause de nos péchés, il est même tombé en désolation. Mon âme est triste à en mourir, dit-il au moment de l'agonie au Jardin des Oliviers. Et il va porter tous nos péchés, justement, pour nous aider à nous en détacher. Il va accepter la flagellation, la réparation de tous les péchés de vanité, de sensualité, d'impureté. Il va accepter le couronnement d'épines, en réparation de tous les péchés d'orgueil. Il a porté la croix pour tous ceux qui ne veulent pas la porter. Lui qui est innocent porte la croix de nous qui sommes coupables parce que les coupables ne veulent pas payer pour leur culpabilité. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va se faire obéissant jusqu'à la croix. Il va prendre la croix que nous devrions porter pour la porter à notre place. Mais attention, il nous demande une petite participation. Un peu comme Simon de Cyrène, qui est allé, que les soldats sont allés chercher pour l'obliger à porter une partie de la croix à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur n'est pas porté, il va pas tout porter par lui-même. La Sainte Vierge qui en porte une partie, notre Seigneur Jésus-Christ qui porte la plus grande partie du poids de la croix, mais entre la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ, il faut se placer là. Il n'y a plus grand-chose à porter, notre Seigneur a presque tout pris, la Sainte Vierge aussi. Oui, il reste toujours un petit peu. Il y a une petite partie du poids de la croix que nous devons porter. Alors on se met entre la Sainte Vierge et notre Seigneur. Notre Seigneur est devant nous, nous montre le chemin, il porte la croix. Alors si on est un peu découragé, on regarde derrière, on voit le sourire de notre Sainte Vierge Marie qui nous encourage à porter cette croix. Et on monte comme ça, continue de monter les barreaux de l'échelle. Et les barreaux de l'échelle vont nous mener à la fin de cette vie illuminative. Et là, il y a un deuxième plateau. Ça semble bizarre, mais à ce moment-là, le bon Dieu, qui veut encore nous purifier par amour pour nous, cette fois-ci, il va nous envoyer une deuxième épreuve, encore pire que la première, la nuit de l'esprit. Non seulement il nous a retiré avec la nuit des sens toutes les consolations sensibles, cette fois-ci, il va même nous retirer les consolations de l'intelligence. Et les gens qui sont passés par la nuit de l'esprit disent qu'ils ont l'impression d'avoir perdu la foi. Ils sont dans un tunnel total. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui était dans un tunnel qui voyait un petit point noir au bout du tunnel. C'est vrai qu'il y a une sortie, mais c'est tout. Vous ne savez pas combien de temps allait durer cette épreuve et quelle était la longueur du tunnel. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, une fois qu'on est passé par la conversion de l'âme, la vie, la voie purgative, la compassion de la voie souffrante, de la voie illuminative, à ce moment-là, le bon Dieu peut nous amener à la voie unitive, qu'on appelle la voie mystique. C'est l'union totale avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on s'est débarrassé des péchés mortels, voie purgative, et des péchés véniels, voie illuminative. À ce moment-là, il nous met en voie unitive. La voie unitive, on peut dire à ce moment-là, il n'y a plus de péché. Et là, on peut commencer à réparer. On ne peut pas vraiment réparer tant qu'on est en état de péché mortel. C'est impossible. On ne peut pas essayer de réparer les péchés qu'on continue de commettre. Mais même quand on commet des péchés véniels, on ne peut pas vraiment complètement réparer. Parce que les péchés véniels, malheureusement, prouvent qu'on n'aime pas encore notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la véritable réparation pour nos péchés passés, elle va commencer au moment où on n'a plus de péché mortel, plus de péché véniel. Et donc on peut se lancer complètement dans l'amour du bon Dieu pour rattraper par des actes d'amour toutes nos bêtises du passé. Souvent, les gens me demandent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je peux faire pour réparer, on a souvent ce genre de questions, les retraites, après les confessions générales. Monsieur l'abbé, j'ai fait une bonne confession générale, Deo gratias, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour réparer? La réponse, elle est là. Aimer. Aimer notre Seigneur. Ayez cet amour, dégouliner littéralement d'amour, pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, la vie unitive. Et la vie unitive, elle va correspondre au mystère glorieux. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption entre Sainte Vierge Marie, le couronnement entre Sainte Vierge Marie au ciel. Et donc, en passant par ces trois étapes, la vie purgative, la vie illuminative, la vie unitive, on arrive finalement au ciel. C'est pour ça que les saints appelaient cette troisième étape le mariage spirituel, l'union totale avec notre Seigneur Jésus-Christ, l'union définitive, parce que le mariage est indissoluble. Et donc, ce mariage spirituel va correspondre à l'entrée au ciel. Mais avant d'entrer au ciel, il y a 15 barreaux à franchir, attention. Saute pas du premier barreau au dernier tout de suite. Il faut passer par toutes ces épreuves que le bon Dieu permet. Non, mais bien, chers frères, méditons un petit peu là-dessus, hein, cette belle fête du rosaire. Puis prions aussi. Il ne faut pas oublier que la fête de Notre-Dame du Rosaire a été établie pour commémorer la victoire de Lépante en 1571. Donc le pape Saint-Pie V, voyant que les Turcs étaient en train d'envahir toute l'Europe, l'islam était en train d'envahir toute l'Europe, donc le pape Saint-Pie V a créé une ligue littéralement contre l'islam, et Dieu sait si cet exemple de Saint-Pie V devrait être suivi aujourd'hui, où on voyait l'islamisation de plus en plus totale de notre pauvre pays, et on a besoin d'une même ligue. Qu'est-ce qu'a fait Saint-Pie V? Il a fait deux choses. Il a commencé par demander à tous les catholiques de prier le rosaire. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a aussi organisé une armée. Donc il a demandé aux Français de venir aider, ils ne sont pas venus. Il a demandé aux Allemands de venir aider, ils ne sont pas venus. Il a demandé aux Portugais de venir aider, ils ne sont pas venus. Finalement, c'est les Espagnols et les Italiens qui sont venus. Et Saint-Pie V a donné le commandement à Colonne, un Italien, et puis à Juan d'Autriche. Et je crois, si je me souviens, c'est exact, le fils naturel de Charles Quint. Et soutenu par la prière de tous les chrétiens qui priaient le rosaire, il les a envoyés au combat. Et malgré une infériorité numérique en nombre de galères, une infériorité numérique en nombre d'hommes, eh bien, c'était la victoire de Lépante. Donc on voit très bien la victoire de Lépante. Il y a deux choses, il y a la partie spirituelle, le rosaire, mais il y a aussi l'action. Il ne s'agit pas simplement de dire on prie, puis on laisse tomber tout le reste. Non, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Il ne faut pas tomber non plus dans l'activisme, de remplacer la prière par l'action, il faut les deux. On voit très bien dans Saint-Pie V, d'abord la prière du rosaire, et ensuite la bataille contre l'islam. Donc il faut demander justement au bon Dieu, parce que nous sommes un peu dans une situation un peu similaire, il faut bien avouer ce qui est, à celle du XVIe siècle. L'islam se répand partout. L'islam, c'est la destruction du catholicisme, évidemment. Comme au XVIe siècle, l'islam n'a pas changé, toujours aussi conquérant, au service du démon, malheureusement. Eh bien, il faut utiliser les mêmes moyens. Les deux moyens, le premier, c'est la prière, et ceci, l'action. Alors, dans quelle mesure on peut, hélas, faire une action? On n'a plus Saint-Pie V comme pape, on n'a plus de pape aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même situation. En plus de ça, on a une situation beaucoup plus compliquée, mais le bon Dieu est toujours là, la Très Sainte Vierge Marie est toujours là. Donc ne pas se décourager et reprendre le poil de la bête, comme on dit vulgairement, pour reprendre ce combat. Mais n'oublions pas que la première condition du combat, c'est l'état de grâce. J'ai relu dans Rohrbacher hier, l'histoire de l'église de Rohrbacher, qui a écrit autour des années 1850. Rohrbacher est un des meilleurs historiens de l'histoire de l'église avec Darras. Eh bien, il y a un passage dans cette explication de la bataille de Lépante qui dit que Saint-Pie V avait donné des ordres pour que tous les soldats, avant la bataille, se confessent et communient tous. On retrouve exactement le même principe chez Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc qui va demander exactement la même chose à tous les soldats avant de commencer la bataille pour délivrer Orléans des Anglais. Alors comprenons bien toutes ces choses, mes bien chers frères, et mettons-nous à genoux au pied de la Très Sainte Vierge Marie pour lui demander de nous maintenir sur cette échelle qui va au ciel. Parce qu'une échelle, on peut monter, mais on peut aussi descendre, c'est le problème. Et quand on commence à franchir ces barreaux de l'échelle, ces 15 barreaux de l'échelle, au bout d'un certain temps, on trouve que c'est un peu haut, c'est un peu trop vertical, c'est un peu trop pentu, alors on a tendance à vouloir redescendre. La Très Sainte Vierge Marie est juste derrière nous sur l'échelle pour nous empêcher de redescendre, justement. On essaie de redescendre et on tombe sur la Sainte Vierge qui nous pointe du doigt vers le haut en disant c'est là-haut qu'il faut monter, on ne descend pas ici. Celui qui ne progresse pas dans la vie spirituelle, il recule. Donc non seulement il ne faut pas descendre, il ne faut pas dire aussi, bon, ben, je m'arrête un peu, je commence à être un peu fatigué, ben, la Sainte Vierge va nous pousser parce qu'elle est derrière nous pour nous obliger à continuer de monter. Donc non seulement elle nous interdit de redescendre, mais elle nous empêche de nous reposer. Je suis fatigué, je me reposerai quand? Au ciel. Au ciel, une sieste continuelle. Une sieste continuelle en adoration devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pas ici. Ici, c'est un combat. Et cette bataille des pentes nous rappelle ce combat spirituel, ce qu'on appelle le combat spirituel qui doit être le nôtre et qui se termina au ciel. Demandons à notre Sainte Vierge Marie d'être des bons soldats, de sortir les âmes offensives et défensives pour bien nous maintenir en état de grâce et être de dignes soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.